Je m'appelle Morgane Bourkis, j'ai 42 ans et je vis à Marseille depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais moi, pendant toute ma carrière, on va dire, j'ai payé mes déplacements, mes voyages, aussi bien sur les championnats du monde. Du coup, j'ai réussi à monter ce modèle professionnel. Et il m'a fallu du temps, mais s'il m'a fallu du temps, c'est aussi que, au départ, j'étais pas prêt. Donc, j'accepte aussi cet état de fait que tout ce que j'ai construit, il a fallu, que ça se mature et que ça se fasse progressivement. Donc, au final, je suis pas sûr de changer quelque chose. Voilà.
Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur le podcast Dans les Vestiaires. Dans les Vestiaires, c'est LE podcast qui vous en dit plus sur les mécanismes que mettent en place les grands noms du sport, les aventuriers, les explorateurs, les artistes pour financer leur carrière et vivre leurs rêves. Je voudrais commencer par des remerciements à toute la communauté qui interagit avec moi à chaque nouvelle publication d'épisode et qui rivalise d'idées pour avoir des invités. Juste avant de vous laisser écouter ma discussion avec un nouvel invité, comme à chaque ouverture de casier, j'ai un énorme service à vous demander. Ce podcast ne touche malheureusement que très peu de personnes à l'heure actuelle et j'en suis malheureux car j'y mets tout mon cœur à l'ouvrage. Je ne souhaite pas vivre de ce podcast et encore moins vous embêter avec de la publicité, mais plus je recevrai de sportives, de sportifs, d'artistes, d'aventuriers, d'explorateurs prestigieux, et plus nous pourrons les aider grâce au projet que je suis en train de finaliser. Et pour ça, il va falloir que l'on enregistre des records d'audience. Alors, une seule solution, il faut que le podcast soit connu et reconnu. Je compte donc sur vous pour aller dès maintenant sur Apple Podcast, laisser une note 5 étoiles et une revue, le faire aussi avec tous les comptes et tous les appareils des membres de votre famille, et enfin inciter vos amis à nous écouter et à laisser des commentaires de folie. Allez, sur ce, assez discuté, je vous laisse écouter mon nouvel invité. Salut les sportifs, c'est Armano, j'espère que tout se passe bien pour vous. De mon côté, je suis très heureux puisque j'ai la chance de recevoir un nouveau sportif qui va s'intégrer aussi dans la série des apnéistes puisque j'ai déjà eu la chance d'avoir à ce micro Arthur Guérin-Boëry, Pierre Frolla, Stéphane Toureau. Salut Morgane.
Salut.
Enchanté de t'avoir à ce micro.
Merci, moi aussi. En avant pour une heure d'échange.
Voilà, exactement. Et je suis persuadé que ces échanges vont être très instructifs et vont plaire à nos auditeurs et à nos auditrices. Alors déjà, peut-être pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter qui tu es. J'ai juste donné ton prénom, mais peut-être que tu peux donner aussi ton nom. Quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie, et puis après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet.
Je m'appelle Morgane Bourkis, j'ai 42 ans et je vis à Marseille depuis une vingtaine d'années maintenant. Je suis plongeur apnéiste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne veux pas considérer que je suis un athlète professionnel, parce qu'à l'inverse des nageurs, des footballeurs ou des rugbyman, on n'est pas salarié d'un club. Donc, on a développé, quand on arrive à vivre de son image, on développe une espèce de business à travers différentes activités pour pouvoir, on va dire, consacrer après le maximum de temps à nos entraînements et à notre pratique. Mais à l'inverse d'un sportif vraiment professionnel, nous ne sommes pas dédiés 100% à celle-ci, puisque nous devons donc exercer d'autres activités pour faire entrer de l'argent, tout simplement. Donc, moi, j'ai un passé à la base de professeur de PS dans le milieu spécialisé auprès d'enfants et d'adolescents qui ont des troubles du comportement et des troubles psychiatriques. Donc ça a marqué 12 ans de ma vie, ces 12 ans pendant lesquels j'exerçais déjà cette activité sportive qu'est la plongée en apnée à haut niveau. Donc j'avais ce statut de salarié au départ et je faisais des compétitions à haut niveau et déjà en équipe de France depuis 2005. Par la suite, grâce à des résultats assez importants au niveau international, notamment des titres de champion du monde, j'ai pu commencer à vivre de mon image et à commencer à toucher quelques sponsors, notamment, comme le prévoit le code du travail, m'ont fait intégrer, je dirais, ce qu'on appelle une mise à disposition. C'est-à-dire que pendant 2 ans, j'ai demandé à mon employeur, qui était une association à l'époque, beaucoup dans ce secteur médico-social, et on dirait de l'éducation spécialisée. Ce sont beaucoup d'associations qui ont en charge les établissements pour accueillir les enfants, les adolescents et même les adultes. Donc mon employeur était une association à l'époque et sur ces 2 ans, j'ai commencé par une première année avec un emploi à mi-temps pour me consacrer davantage à ma pratique et à honorer, on va dire, certains rendez-vous que les sponsors ou d'autres activités ou événements me demandaient. La deuxième année, je me suis libéré complètement de mon emploi de professeur de PS, mais comme c'était une mise à disposition, je restais toujours, on va dire, dans l'administratif de l'association. Et au bout de ces 2 ans, jusqu'à terme, voilà, de cette mise à disposition, j'ai pu, on va dire, remettre ma démission, puisque mon projet de création d'entreprise pour vivre de mon image avec différentes activités prenait forme et me permettait de voir à quelques années en avant. Donc du coup, j'ai pris cette décision de vivre complètement de mon image et d'arrêter ce salariat, on va dire, de professeur de PS. Alors cette mise à disposition, c'est quelque chose qui existe dans le privé pendant 2 ans. Et au niveau des fonctionnaires, ils ont beaucoup de chance, on va dire. C'est une période qui peut aller jusqu'à 10 ans pour eux. Mais nous, déjà, en 2 ans, si tu es un petit peu sérieux, tu peux déjà monter quelque chose. Et c'est déjà très bien de pouvoir avoir, on va dire, un petit peu cette bouée de secours, on va dire.
Alors, on va revenir dessus, justement, sur la mise à disposition et sur les projets que tu as pu mettre en avant. Moi, j'aimerais déjà... revenir un petit peu sur toi. Tu nous as parlé très brièvement de titres de champion du monde. J'aimerais que, que tu nous parles un petit peu de ton palmarès. Est-ce que ça a commencé ? Parce que tu nous as dit que tu avais, pendant que tu travaillais, pendant que tu étais salarié, pendant 12 ans de ta vie en tant que prof de PS auprès d'enfants à besoins spécifiques, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, eh bien, tu exerçais quand même ton sport. Mais comment est-ce que tu es tombé, entre guillemets, dans le bain de l'apnée ? Et puis, à partir de quand est-ce que tu as commencé à performer ?
Alors, moi, j'ai commencé l'apnée à l'université. Moi, j'ai fait la faculté des sciences du sport. Donc, je suis originaire de Touraine et j'ai fait mes quatre premières années de fac de sport à Poitiers, donc pas très loin de Tours. J'ai un passé, moi, au niveau sportif de nageur et de basketteur. Et de basketteur aussi à haut niveau jeune, pendant une douzaine d'années aussi, d'ailleurs.
12, c'est un chiffre qui est pas mal pour toi, finalement.
C'est un chiffre, voilà, qui représente quelque chose, peut-être. Et du coup, j'ai commencé la plongée en apnée à 21 ans, lorsque j'étais étudiant. Habitant en Touraine, effectivement, on est éloigné de la mer, ça c'est clair. Mais j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents et d'être en contact avec la mer, de faire de la plongée sous-marine, de faire déjà beaucoup de snorkeling et d'apnée, de chasse pendant que j'étais jeune, bien évidemment sur des périodes courtes, hein, c'était simplement les grandes vacances, et puis c'était que quelques semaines pendant les grandes vacances, c'est pas toutes les grandes vacances non plus, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, on va dire c'était en 1999 quand j'ai tourner, on va dire, la page du basket qui m'avait pris beaucoup, beaucoup de temps, je me suis remis un petit peu au milieu aquatique et subaquatique. Et j'avais toujours rêvé de faire de l'apnée une discipline sportive lorsque j'étais plus jeune, mais c'était très compliqué à l'époque. Déjà, je n'étais pas au bord de la mer et ce n'était pas aussi développé que maintenant. Donc, c'était beaucoup plus compliqué de trouver des clubs aussi à l'intérieur du pays. Donc j'ai commencé, parce qu'il y avait un club de plongée à Poitiers, à faire cette activité qui existait déjà un petit peu en dilettante, et je suis descendu à Marseille pour poursuivre cette activité en mer et continuer aussi les études, sachant que moi je me suis orienté vers la physiologie de l'exercice, c'est-à-dire vraiment la recherche scientifique en physiologie du sport, et l'apnée est devenue un sujet d'étude également. Donc du coup, je suis descendu à Marseille et pour pratiquer pour moi et pour continuer ces études parce que j'avais trouvé un maître de mémoire qui pouvait du coup m'accueillir sur le début d'un troisième cycle universitaire. Donc c'est comme ça que je suis descendu à Marseille et que j'ai rejoint, on va dire, progressivement l'apnée assez vite, on va dire.
Ouais, je vais finir par croire que l'apnée, un peu comme l'Ironman dans le triathlon, est un sport pour les sportifs déjà d'une certaine maturité. Pierre Frolla, j'en parlais tout à l'heure, a découvert ça un peu sur le tard, même si lui, il a été un petit peu plus en contact avec la mer. Je crois que pour Stéphane, c'était pareil. Pour Arthur Guérin aussi, il a découvert l'apnée
à 30 ans. Arthur.
Voilà, ça, 26 ans, je crois. On va dire sur un malentendu, un pote lui a dit tiens, viens à la piscine, et puis c'est comme ça qu'il a découvert. Donc, est-ce que c'est un sport, à ton avis, qui demande une certaine maturité pour pouvoir, peut-être pas performer, mais au moins comprendre les bienfaits, comprendre les objectifs, comprendre les règles à respecter au niveau de l'apnée, ou est-ce que c'est juste que vous avez eu, vous êtes retrouvé à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez commencé un peu sur le tard et performé tout de suite ?
Ce n'est pas une activité, je dirais, comme d'autres sports, sports collectifs et plein d'autres que l'on peut commencer jeune, en fait. Il n'y a pas forcément de structure d'accueil qui peuvent accueillir les enfants à partir de 6, 8 ans pour faire la plongée en apnée. Ça n'existe pas, même si dans les textes au niveau fédéral, on peut commencer l'apnée notamment et la plongée à partir de 8 ans, mais ça reste compliqué de trouver des clubs qui peuvent accueillir voilà ces tranches d'âge-là. L'apnée, je dirais, performance, ne commence pas tout de suite, on va dire. On a une grosse problématique et de grosses craintes par rapport aux effets de l'hypoxie, c'est-à-dire du manque d'oxygène, sur notamment un corps encore en construction, on va dire. Et pendant très longtemps, on va dire que des sections apnées proposant, on va dire, une activité sportive, sans forcément parler de performance à outrance sur ces âges-là, n'existent pas. On peut accueillir des enfants, mais beaucoup plus sur le mode de la découverte, sur le rapport, on va dire, à l'eau, et puis bien évidemment en y rajoutant aussi des composantes environnementales quand on a la chance d'être proche de la mer. Mais c'est quelque chose qui reste encore, on va dire, assez rare malgré tout. Et l'apnée sportive n'existe pas au niveau jeune, on va dire. Quand on commence, je dirais, alors aujourd'hui un peu plus, mais quand on commence voilà à pratiquer l'apnée de manière un peu plus sportive, c'est qu'on a déjà à peu près entre 15 et 16 ans. Ce qui est déjà tard. On forme déjà des champions olympiques en gymnastique à partir de 6, 7 ou 8 ans. Donc c'est pour expliquer vraiment le décalage et le gap qu'il y a entre ce type d'activité et d'autres activités classiques sur lesquelles on commence très tôt, avec aussi toute la retenue qu'on peut avoir, hein, former un enfant avec 4 ou 5 entraînements, 5 heures d'entraînement par jour sous les 10 ans pour en former un futur champion, on peut s'interroger aussi sur cette problématique-là. Et voilà, c'est autre chose.
Je pense qu'à ce niveau-là, l'hypoxie a moins de problèmes.
C'est ça, exactement.
Génère moins de problèmes sur un corps en devenir qu'autant ouais, d'heures d'entraînement.
Les répétitions, etc. Enfin voilà, donc ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on peut commencer l'apnée sportive, je dirais, relativement tard. Donc au final, moi qui ai commencé à 21 ans, ça reste relativement correct, on va dire. Comme tu dis, Arthur a commencé beaucoup plus tard. Il y a un jeune de chez nous, là, qui a 24 ans, Arnaud Gérald, qui a commencé, lui, un petit peu sous les 20 ans. Mais il n'a pas commencé à 10 ans, quoi, parce qu'il n'y a pas de structure de club qui accueille des enfants pour leur permettre de faire vraiment cette activité à cet âge-là. Donc c'est aussi, on va dire, les caractéristiques de notre discipline.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai eu un peu comme toi, j'habitais en Normandie, donc pas vraiment au bord de la mer, et puis même si la mer était pas si loin que ça, ça caille un peu pour aller faire de la plongée, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé avec mes parents aussi, mon père est d'origine sicilienne, enfin est sicilien, et donc à chaque fois on voyageait au bord de la mer, et avec lui j'ai fait beaucoup d'apnée, plutôt apnée loisir, tu sais, un peu de voilà. Pêche sous-marine pendant les vacances, et quand justement j'avais 9, 10, 12 ans, 12, tu vois, j'ai pris ton chiffre, eh bien j'ai cherché un club d'apnée et ça n'existait pas. Donc on a à peu près le même âge, donc on est de la même génération. J'ai trouvé un club de plongée où de temps en temps on faisait un peu d'apnée dans la fosse, mais l'apnée et encore moins l'apnée sportive n'existait pas, en tout cas à notre âge. Ouais. Justement, on parle d'apnée sportive, de plongée. Toi, ta spécialité, elle est à quel niveau de l'apnée? Parce que avec Arthur, on a découvert, donc Arthur Guérin-Boiry, on a découvert l'apnée piscine. Avec Pierre Frolla, on a découvert plutôt l'apnée de profondeur. Il y a l'apnée en poids de corps, l'apnée en poids lesté. Toi, tu performes sur quel déjà tu pratiques quelle apnée et tu performes sur quel sport?
Alors moi, j'ai pratiqué dès que je l'ai commencé. La première année, bien évidemment, je n'étais qu'en piscine à Poitiers. Et je suis descendu au bout de la deuxième année sur Marseille. Donc, j'ai pratiqué l'apnée sous toutes ses formes, en piscine et en mer, on va dire, avec et sans matériel. Donc, j'ai cette polyvalence aussi d'avoir été à l'aise dans les deux milieux assez rapidement. J'ai pratiqué beaucoup en piscine et encore aujourd'hui. Par contre, d'un point de vue compétition, je me suis un peu plus retiré des compétitions en piscine dernièrement pour davantage me consacrer à la mer uniquement, aussi par choix, tout simplement parce que j'ai fait beaucoup de compétitions et puis à un moment tu as envie aussi de faire d'impliquer une certaine direction à ta carrière et de faire ce que tu as envie un petit peu aussi. Donc, je suis beaucoup plus attiré par la mer que par la piscine. Mais effectivement, aujourd'hui, je pratique encore les deux, mais davantage la compétition en mer.
Ok. Donc, tu nous as dit, pour revenir un petit peu sur ton histoire, tu as découvert l'apnée à 21 ans.
Oui, l'apnée sportive, peut-être que je la pratique aujourd'hui. Okay. Voilà. Après, je pratiquais déjà avant, mais pas sous cette forme-là.
Donc, l'apnée sportive, telle que tu la pratiques maintenant à 21 ans, tu as commencé à performer assez rapidement. Est-ce que, donc, pendant que tu finissais tes études et pendant que tu tu travaillais, tu continuais à pratiquer ton sport, à performer. Tu nous as expliqué aussi tout à l'heure qu'après une douzaine d'années au sein de l'association qui t'employait, tu as pris 2 ans.
Mise à disposition. C'est vraiment pour la création d'un projet professionnel, en fait, que ce processus existe, en fait. Okay. Donc, c'est intéressant. C'est vraiment bien.
Donc, on y reviendra peut-être juste après, mais déjà, ma première question, c'est à partir de quel moment le besoin de financement pour toi a commencé à se faire sentir ? Enfin, ou plutôt, je vais tourner ça autrement. Est-ce que tu as vraiment ressenti un besoin de financement pour pratiquer ton sport ou le fait que tu commences à performer, certains sponsors, certains partenaires sont venus frapper à ta porte et ont commencé à mettre en toi une petite graine de « bon, bah, si tu t'entraînes un peu plus, tu peux performer encore plus et donc en tirer des revenus ». Comment est-ce que ça s'est passé chez toi, le mécanisme ?
Moi, j'ai travaillé assez vite une fois que j'ai arrêté mes études, donc du coup, et que j'ai pratiqué cette activité sportive nouvelle. Le haut niveau est venu petit à petit, la participation à des championnats du monde également. Donc, je dirais que je n'ai pas eu de problématique financière puisque je travaillais et ça me suffisait très bien pour pouvoir vivre normalement, correctement, et exercer ma passion, on va dire. Donc, je dirais que c'est plus le besoin de changer de mode de vie pour me consacrer davantage encore à ma discipline sportive qui a provoqué le fait que j'essaye de monter un autre projet professionnel, en fait, et de vivre de mon image. Donc, c'est plus là-dessus, on va dire, que mon choix s'est orienté, puisque pratiquant cette discipline à haut niveau, bien évidemment, ça demande beaucoup d'investissement et de sacrifices. Et je commençais, après plusieurs années, notamment, à m'essouffler un peu sur ce rythme de vie où tu dois concilier activité professionnelle, vie privée et à un sport qui te demande énormément d'un point de vue temps, on va dire. Donc, continuer sur ce mode-là commençait à être un peu compliqué. Et quand j'ai vu que les sollicitations commençaient à arriver, j'ai commencé à essayer de faire le plus possible de tendre vers cette direction. Donc, au fur et à mesure, quand j'ai vu que ça commençait à être possible de prendre cette mise à disposition, sur 2 ans, étalé sur 2 ans, progressivement, d'abord à mi-temps, puis après dédié complètement à ma pratique la deuxième année, puis après vraiment remettre ma démission. Mais ça s'est fait vraiment progressivement dans le temps, et je dirais plus pour changer de mode de fonctionnement que d'un point de vue financier, on va dire. C'est plus ça qui a caractérisé mon changement et mon projet professionnel.
Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de cette mise à disposition ? Est-ce que c'est un dispositif qui est proposé par le gouvernement, par l'État, par le ministère des Sports, par ou autre ? Ou est-ce que c'est un dispositif légal qui te permet de négocier avec ton employeur cette mise à disposition ? Je pense qu'il y a quelques jeunes qui nous écoutent et qui seront certainement intéressés par ce sujet.
C'est vraiment un dispositif légal qui fait partie du code du travail. Donc, du coup, dans le privé, on a cette possibilité d'avoir ces 2 ans, c'est-à-dire 1 an renouvelable une fois, pour développer un projet professionnel, mais quel qu'il soit. Moi, il se trouve que j'ai monté ma société, qui est une société qui me représente d'un point de vue image et qui gère du coup cette image et les différents contrats que je peux engendrer. Mais si vous voulez monter votre entreprise de maçonnerie ou artisan boulanger ou créer un autre projet professionnel, c'est tout à fait possible. C'est vraiment un dispositif qui est créé. Alors, c'est vraiment différent du congé sabbatique, puisque quand tu demandes ce congé, cette mise à disposition, tu le motives par un projet professionnel écrit auprès de ton employeur. Le congé sabbatique, tu n'as pas forcément de justificatif à donner, et lui, il se limite, il est compris entre 6 et 11 mois, je crois, maximum. Là, on est sur au total 24 mois quand même, donc c'est différent. Et il y a cette motivation de création d'entreprise, de reprise d'entreprise à la clé. C'est vraiment pour un projet professionnel. Et c'est une chance aussi, quoi. Alors, bien évidemment, si tu demandes un congé complet, c'est-à-dire que tu arrêtes de travailler dans l'entreprise, l'association ou n'importe quel organisme qui t'emploie, tu restes dans l'administratif de ton employeur, et bien évidemment, tu ne touches pas de salaire. Ça, c'est normal.
Oui, tout à fait. Est-ce que, malgré tout, comme tu fais toujours partie des effectifs, donc d'un point de vue administratif, est-ce que tu dois ou même tu peux volontairement quand même cotiser pour les charges sociales, pour la retraite ou ce genre de choses, ou tu fais juste partie d'un listing des effectifs et tu fais après, par ailleurs, ce que tu veux avec tes cotisations sociales et tes cotisations retraite.
Étant donné que tu n'as pas de salaire, du coup, tu n'as plus de cotisation. Et de par l'employeur. Oui. Par contre, moi, j'avais aussi, lorsque je faisais cette activité, j'avais du coup une activité à côté, puisque j'avais déjà créé, moi, à l'époque, mon statut d'auto-entrepreneur, puis mon statut de société, un deuxième statut est venu assez rapidement derrière. Et du coup, toutes mes cotisations sociales, mes cotisations diverses, on va dire, se faisaient par l'intermédiaire de ma nouvelle activité, okay. On va dire. Je restais juste, on va dire, dans le listing de mon employeur. Par contre, si je voulais rompre, on va dire, ma mise à disposition et revenir, j'étais, voilà, sur le poste, on va dire, qui m'était dédié avant. Donc, c'est une sécurité, on va dire, pendant quelques temps, qui permet d'aller voir ailleurs et de monter ton projet. Si ça ne va pas, hop, tu reviens à ton poste qui t'est gardé pendant ces 2 ans maximum.
Ok. Très bien, ouais. Je te remercie pour ces précisions. Alors, ouais. Je te posais cette question-là parce que c'est un sujet aussi qu'on a souvent abordé avec les sportives et les sportifs de haut niveau que j'ai eu à ce micro, c'est justement l'aspect protection sociale des sportifs de haut niveau, et notamment ceux qui sont entièrement dédiés à leur sport et qui n'ont pas forcément une structure par derrière pour représenter leur image ou autre. Alors, je sais que c'est un point qui a été mis en place, je crois, en 2012 par le ministre des Sports actuel en France, pour s'assurer que les sportifs avaient bien le droit à une couverture sociale et à préparer leur retraite.
C'est tard, hein, 2012. Hein. C'est-à-dire que tous les sportifs de haut niveau d'avant n'avaient pas cette possibilité-là. Moi, j'en connais beaucoup, hein, qui ont justement arrêté, je crois, leur carrière en équipe de France en 2011. Ils n'ont rien. Ouais. Ils n'ont rien là-dessus. Ouais.
Et avec l'obligation, comme tu dis, c'est d'être sur la liste des sportifs de haut niveau français.
Exactement. Ouais, ça au final, cette disposition, elle ne nous concerne pas, parce que nous, notre activité n'est pas reconnue à haut niveau sur les listes ministérielles du ministère Jeunesse et Sport. Donc au final, on n'est pas du tout sur ce type de statut-là. Moi aujourd'hui, j'ai toutes mes cotisations et je cotise au chômage, je cotise à la retraite, de par mon statut personnel que j'ai créé, de par la société que j'ai créée. Donc au final, je me suis débrouillé pour assurer, on va dire, mes arrières et assurer un manque d'activité éventuel aujourd'hui, mais je ne dépends pas du tout du coup de ces dispositifs créés par le ministère des Sports pour les athlètes de haut niveau reconnus, on va dire. Voilà.
Oui, parce que il faut le préciser, en France en tout cas, il y a le statut d'athlète de haut niveau qui permet d'être sur cette fameuse liste des sportifs ministériels, qui d'ailleurs est publique. Bon, on n'a pas l'adresse de la personne, du sportif en question, mais on peut retrouver les données relatives à ces sportives et ces sportifs, savoir depuis combien de temps ils sont sur la liste et s'ils sont sur la liste, et dans quelle catégorie, espoir, élite ou autre. Mais il faut pour cela que le sport en question fasse partie des sports reconnus comme étant sport de haut niveau. Et je crois que dans la Fédération française, donc la FFESSM, Fédération française d'études et de sport sous-marin, c'est long, eh bien, la nage avec palme est reconnue, mais pas les autres sports de l'apnée.
Exactement.
Il faut bien choisir son sport quand on veut être sportif de haut niveau.
C'est ça, oui, on va dire. Bah, si on veut bénéficier aussi de ce type d'aide, par exemple. Après, moi, je sais que sans être sur des sports reconnus, entre guillemets, j'ai aussi cette latitude à un moment de créer ma propre activité, d'être maître de moi-même. De comprendre aussi l'entrepreneuriat, de comprendre tous ces secteurs, et c'est quelque chose de très intéressant malgré tout en termes de développement personnel. Donc je dirais que je ne peux pas bénéficier de tous les pas dire de privilèges, mais de toutes les aides qu'ont les sportifs de haut niveau reconnus. Mais par contre, j'ai du coup un développement personnel assez riche parce que je me suis créé moi-même mon entreprise et mon business, on va dire, et c'est très enrichissant.
Oui, plus de latitude aussi de faire un petit peu comme tu l'entends et pas forcément cantonné aux règles qu'édicte le ministère des Sports.
Exactement.
Ok, bon, malgré tout, je trouve qu'on a un petit peu éludé l'une de mes premières questions qui était ton palmarès. Je pense que nos auditrices et auditeurs aimeraient, même si je doute qu'il y en ait qui ne connaissent pas ton nom, parfois on a un petit peu du mal à le prononcer, alors Bourchis, Bourkis, on ne sait pas, mais bon, bref. Donc oui, je voudrais revenir un petit peu sur ton palmarès. Tu as été membre de l'équipe de France, tu as été en championnat du monde, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, j'étais membre de l'équipe de France entre 2005 et 2019, avec 13 sélections sur l'ensemble de cette période en équipe de France AIDA, du coup, puisque j'imagine qu'avec les autres athlètes, tu as aussi discuté de ces deux fédérations qui existent peut-être un peu.
AIDA et SEMAS. Bon,
voilà, un athlète AIDA, parce qu'à la base, quand j'ai commencé, bah, c'était surtout cet organisme, cette agence qui représentait l'apnée mondiale à haut niveau, on va dire, qui organisait, on va dire, les premières compétitions. La FFSSM affiliée à l'ACMAS est arrivée plus tard en France et représentée notamment par une fédération française, donc c'est-à-dire officielle par rapport à la structure du sport en France. Voilà. Donc moi, j'ai été surtout un athlète AIDA pendant toute ma carrière, entre 2005 et 2019. Donc j'ai eu 13 sélections en équipe de France, 9 podiums en championnat du monde et dont 3 titres de champion du monde. Voilà. On va dire c'est les principaux faits d'armes. Après, il y a des records nationaux, des records d'Europe, mais pas de records du monde, par contre.
Tu as dit 3 titres de champion du monde ?
Oui.
Dans quelle discipline ?
Alors, un titre de champion du monde par équipe. Gagné en 2008 avec Christian Maldamé et Guillaume Néry. Donc les championnats du monde par équipe, ce sont 3 athlètes qui représentent chaque nation, 3 hommes et 3 femmes bien évidemment, si c'est possible. Les 3 athlètes concourent dans 3 disciplines différentes. Chacun fait les 3 disciplines vraiment, hein, c'est pas un athlète par discipline, sur les principales variables, on va dire, de les principales disciplines de la plongée en apnée, à savoir la profondeur, le poids constant avec palme, le temps, l'apnée statique, et la distance, l'apnée dynamique avec palme. Donc ces 3 athlètes font les 3 disciplines, rapportent des points avec tout un tas de stratégies, bien évidemment, à mettre en place. Et à la fin, on voit quelle est la nation qui a remporté le plus de points. Donc c'était des championnats, j'en ai fait 4 comme ça, dont 3 avec des podiums, quoi. Donc ça a marqué vraiment une grosse partie de ma carrière au départ. Avant de faire des championnats du monde individuels davantage et d'avoir acquis 2 titres de champion du monde en poids constant sans palme, qui est vraiment ma discipline phare, qui est une discipline de mer, donc de profondeur, et qui consiste à descendre le long d'un câble à une profondeur annoncée à l'avance, sans aucun matériel, pas de palme, pas de monopalme, sans se tracter le long du câble, mais en nageant la brasse. Voilà. Et étant ancien nageur, c'est pour ça que j'ai eu pas mal de prédispositions, on va dire, dans cette discipline-là. Ancien nageur, spécialiste de la brasse, donc voilà.
Ok, bon, et puis, donc c'est pour ça la carrure, hein. Les auditeurs t'entendent, mais moi je t'ai au téléphone, on voit bien la carrure du nageur, du brasseur en l'occurrence. Oui, et puis on le rappelle quand même, hein, l'apnée, c'est pas uniquement de descendre à la profondeur annoncée, c'est aussi remonter et puis, et puis suivre le protocole à la remontée de 16 secondes, je crois, le protocole international.
15 secondes.
Ok.
Et remonter, il faut remonter, être maître de son, de sa, voilà, de son état, de sa fraîcheur. Donc effectivement, il faut descendre et remonter, oui. Okay. Et être prêt à remonter.
Et donc quand tu remontes sur le poids constant sans assistance, sans palme, tu remontes à la brasse, tu remontes.
Oui, c'est ça. Je descends la brasse et je remonte à la brasse.
Ok. Et ça, la brasse, c'est imposé ou c'est toi qui choisis la nage avec laquelle tu veux descendre?
Il n'y a pas forcément de nage imposée. Il se trouve que c'est la plus efficace quand on est sous l'eau. Donc du coup, tout le monde brasse, on va dire, mais il n'y a pas de, c'est pas codifié. On pourrait très bien battre uniquement des pieds, ça serait un peu long, mais c'est possible, c'est pas interdit.
Okay. Bah, écoute, imaginons quelqu'un qui a une capacité respiratoire qui lui permet de rester 12 minutes pour rester sur le chiffre 12, hein, et que bah, du coup, 6 minutes pour descendre en battement et 6 minutes pour remonter, ouais. Ce serait pas mal. Hein.
Oui, c'est possible, il y a le droit, en tout cas, il y a le droit.
Ok, juste très rapidement, tu peux nous parler de ce protocole de 15 secondes une fois que tu sors de l'eau?
Alors ce protocole de sortie est très strict, aussi bien dans la gestuelle que dans le timing, on va dire. Donc on a 15 secondes pour émerger, on va dire, reprendre sa respiration, bien évidemment, tout en enlevant son équipement facial qui peut être composé d'un masque ou d'un pince-nez, d'une paire de lunettes. Pince-nez, ça dépend des choix de chacun. J'ai bien évidemment aussi récupéré en même temps. Je fais ce signe international OK de la plongée et je dis la phrase « I am OK ». Et tout ça en 15 secondes et dans cet ordre-là. Donc, pas dans un ordre séparé, ni la phrase et le signe en même temps ou inversement, etc. Donc, c'est très découpé et il faut que ça rentre dans les 15 secondes.
Ok, bon, j'avais l'occasion d'en parler sur un autre podcast que j'anime qui s'appelle le podcast de Nakan. Moi, j'ai fait du triathlon et c'est vrai que dans le triathlon, c'est pareil. Alors, c'est pas codifié, mais souvent à l'entraînement, on s'entraîne à enchaîner un certain nombre de mouvements aussi qui finalement deviennent codifiés pour nous, pour être certain de pas se mélanger les pinceaux, de pas se perdre et puis de pouvoir enchaîner sur la transition vers le sport suivant. Donc, merci pour ces précisions-là. Donc, revenons un petit peu sur le financement de ta carrière et puis oui. Ta résilience là-dedans. C'est quand même l'objet de ce podcast. Donc, tu nous as dit que après 12 ans en tant que salarié dans cette association, tes 2 ans de mise à disposition, eh bien, tu as finalement volé de tes propres ailes, tu as donné ta démission pour pouvoir vivre de ton sport. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu justement quels sont les mécanismes que tu as mis en place, quelles sont les solutions que tu as trouvées? Est-ce que tu vends des prestations? Est-ce que tu fais des conférences? Est-ce que tu vends des formations? Est-ce que tu vis simplement de ton image, c'est-à-dire vendre l'apparition de tes sponsors sur tes tenues, ce genre de choses, ou est-ce que tu as encore trouvé d'autres mécanismes un peu plus spécifiques pour pouvoir financer ta carrière?
Alors oui, au départ, on va dire, donc j'ai créé d'abord un premier statut d'auto-entrepreneur, donc j'ai commencé à faire cette transition pour accueillir, on va dire, surtout des activités qui tournaient autour un petit peu de l'intervention en entreprise, des premiers stages, on va dire, d'encadrement également en tant qu'instructeur, et on va dire quelques tournages, on va dire, publicitaires, mais on va dire que c'était un modèle voilà qui tournait tout doucement au départ, on va dire. Il s'est amplifié du coup et sont venus se greffer aussi du coup des sponsors assez importants qui m'ont demandé du coup de créer un deuxième statut puisque le statut d'auto-entrepreneur est limité par rapport à son chiffre d'affaires et j'ai créé du coup une société tout en gardant mon statut d'auto-entrepreneur, donc avec un on va dire des statuts spécifiques qui permettaient de cumuler ces deux statuts, société et auto-entrepreneur. Donc, j'ai monté notamment ce qu'on appelle une SAS. Elle, donc, du coup, uniquement centrée, on va dire, quasiment sur mon image, donc qui accueille, on va dire, mes contrats de sponsor.
D'accord.
Et j'ai gardé mon statut d'auto-entrepreneur sur mes autres activités annexes qui me permettent aussi d'avoir d'autres rentrées d'argent. Donc, ces conférences en entreprise se sont développées. Donc, je continue également ce type de prestation de service aujourd'hui. Je suis toujours instructeur et je fais davantage de stages qu'à mes débuts également, même si, encore une fois, ce n'est pas mon activité principale. Donc, aujourd'hui, je fais, on va dire, à peu près un petit peu moins de 10 stages par an, je dirais plutôt 8, à travers la France. Donc, je n'ai pas d'école à proprement parler. Je suis plutôt itinérant et je suis accueilli sur soit des clubs, qui me demande voilà une prestation sur un week-end, sur 3 jours, sur 5 jours, plutôt davantage pour leurs membres, soit pour des structures, des clubs commerciaux cette fois-ci qui ouvrent ces rendez-vous à n'importe qui, on va dire, donc des locaux, mais aussi des gens qui se déplacent d'un peu plus loin. Donc ça, ce sont soit des clubs, je dirais, des structures commerciales en bord de mer, soit des complexes aquatiques à l'intérieur du pays, comme notamment les fosses, donc sur Paris, sur Lyon, sur Bordeaux, sur Dijon, sur différentes, je dirais, destinations à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est une de mes activités également. Et aujourd'hui, je me forme aussi pour être coach en entreprise. Donc on va dire pour étayer, on va dire davantage mes interventions en entreprise et avoir ce volet un peu plus de prise en charge et de méthodologie, on va dire, liée à des, je dirais, des méthodes particulières liées au coaching. Voilà.
Ok, donc en perpétuelle évolution, apprentissage tu te réinventes régulièrement.
Disons que voilà, dès le départ, j'ai eu en fait ces multitudes, on va dire, d'activités, c'est-à-dire du sponsoring, instructeur, donc encadrement, intervention en entreprise, parfois aussi de manière plus anecdotique, cascadeur sous-marin pour des films, mais ça c'est assez sympa aussi. Et là aujourd'hui, j'interviens aussi davantage sur du prêt d'image aussi pour des documentaires. Là, par exemple, j'ai fait un documentaire en Norvège qui va sortir sur Ushuaïa TV en octobre ou novembre prochain, dans lequel voilà, j'interviens pour des missions documentaires, et ça, c'est assez sympa aussi. Mais ça reste voilà encore très anecdotique. Mais toutes ces activités, je les ai eues dès le départ. tournant autour de mon image, donc de mon activité physique. Mon activité physique aujourd'hui qui est moins importante qu'auparavant, bien évidemment. Donc en fait, c'est plutôt des changements, on va dire, de priorité qui existent aujourd'hui et de mise en avant de certaines activités plus que d'autres. Aujourd'hui, je suis encore de la compétition, mais beaucoup moins que ne serait-ce que l'année dernière, puisque voilà, j'ai choisi aussi d'arrêter l'équipe de France, mais de continuer la compétition donc sous d'autres formats qu'avec l'équipe nationale. Et effectivement, ça devient beaucoup plus secondaire, donc sont mises en avant davantage mes stages et mes interventions en entreprise, alors qu'elle était un petit peu moins auparavant. Mais ce business que j'ai créé, en fait, il a été dès le départ, et il s'entretient et se nourrit et se développe avec des mises en avant suivant les moments, on va dire. Voilà.
Tu nous as parlé de tes sponsors.
Oui.
Alors, écoute, c'est le moment. Vas-y, si tu veux, tu peux les citer.
On a le droit de les citer.
Oh, mais oui, c'est pas la radio. Et puis, moi, j'aime bien aussi que les sportives et les sportifs rendent hommage à ceux qui les ont suivis depuis longtemps et qui leur ont fait confiance. Donc, si tu veux, vas-y, je t'en prie.
Donc, j'ai deux sponsors importants d'un point de vue entreprise, on va dire. Le premier, c'est un horloger qui s'appelle Tudor, qui est une filiale de Rolex, et c'est un important sponsor pour moi depuis 2014. On s'est rencontrés à la base pour une publicité vantant un de leurs produits, donc j'étais simplement, on va dire, acteur dans ce premier projet, et au fur et à mesure, on va dire, j'ai plutôt bien joué le jeu, puisque est née une relation de confiance, et aujourd'hui je suis devenu ami de la marque pour bien évidemment encore vanter leur collection sous-marine, et pour aussi parler, on va dire, de utiliser mon image par rapport au monde sous-marin et avoir, on va dire, des activités propres liées à cette marque-là, puisque par exemple j'ai des missions, on va dire, un petit peu à travers le monde, qui sont un peu limitées en ce moment malheureusement, mais de créer des événements pour les revendeurs à travers le monde, à travers mon activité, à travers l'apnée, sous forme de masterclass un peu chic, on va dire, avec les moyens qu'il faut, pour les différents, voilà, revendeurs de la marque à travers le monde. Donc ça me fait pas mal voyager. Donc c'est pour développer, voilà, c'est pour, quand je pars là-bas, c'est bien évidemment sous l'étiquette Tudor, mais c'est pour parler aussi de mon univers. Donc c'est assez enrichissant. Je fais des très très belles rencontres et dans des endroits assez sympas, et j'ai vraiment une très très bonne relation avec Tudor. Le deuxième partenaire, c'est mon premier partenaire historique, on va dire. C'est la société Tenaxia, qui est une société qui travaille dans tout ce qui est HSE et RSE, donc hygiène, sécurité, environnement et responsabilité sociale sociétale des entreprises, pardon. Donc qui est une entreprise très basée sur la norme et les normes de qualité dans tous les secteurs. Donc c'est assez c'est un milieu qui est vraiment très particulier, mais ça a été vraiment mon premier partenaire qui m'a accompagné sur un premier championnat du monde en 2009, simplement pour boucler, hein, on va dire, à l'époque un budget, donc avec quelques centaines d'euros pour finaliser le billet d'avion, on va dire. Et aujourd'hui, c'est un partenaire vraiment à part entière. Donc il y a vraiment une histoire de plus de 10 ans ensemble, avec du coup aussi des budgets de sponsoring beaucoup plus importants, et des missions de représentation et de collaboration avec l'entreprise sur des conférences pour leurs clients, sur des conférences en interne aussi, assez importantes. Un prêt d'image aussi, on a tourné des publicités ensemble pour la marque également, et ce sont vraiment deux partenaires, voilà, avec qui j'entretiens de très très bonnes relations. Voilà, donc ça, ce sont mes deux principaux sponsors, on va dire, qui m'aident à vivre, qui vont justifier ce statut de SAS. Voilà.
Ok, alors une question toute bête, mais pourquoi est-ce que tous les plongeurs, enfin particulièrement les apnéistes, représentent des horlogers?
Alors pas tous, mais c'est vrai qu'à un moment, et quelques-uns d'entre nous, effectivement, sommes assez liés à des horlogers. Je dirais beaucoup en France, davantage qu'à travers le monde d'ailleurs. Aussi bien Guillaume avec Panerai que moi avec Tudor, que Stéphane avec ZRC. Je sais que à son époque, Stéphane Miss Sud avait aussi IWC, que Pierre à Hamilton. Arthur était plutôt pas forcément sur du sponsor de montre, mais avait des relations avec certains horlogers. Mais c'est vrai que c'est assez flagrant en France, on va dire, sur les athlètes de haut niveau de l'apnée. Ça l'est moins à l'international, on va dire. Mais oui, alors, parce que souvent ces horlogers ont aussi un milieu sous-marin, Et c'est vrai que l'apnéiste véhicule aussi une image, une très belle image. Et du coup, ça matche souvent assez bien sur ce que veulent développer, on va dire, en termes d'image et en termes d'univers, les différentes marques. Mais c'est vrai que historiquement, en fait, même les premiers apnéistes avaient déjà des partenaires. Hein. Umberto Pellizzari, il a longtemps été avec Seiko, si je m'abuse. Je crois que Jacques Mayol a eu aussi un moment un horloger, mais peut-être moins connu et moins mis en avant qu'à notre époque. Mais c'est vrai que Blancpain, par exemple, est très impliqué aussi. Alors lui, dans le milieu de la plongée, par exemple, avec Laurent Balesta, mais aussi avec un apnéiste, avec Gianluca Genoni, qui est un ancien athlète italien. Donc c'est vrai que le milieu de l'horlogerie matche bien avec les plongeurs apnéistes, c'est vrai.
Alors justement, on parle de sponsor, on parle de budget. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'idée, une idée à peu près d'un budget d'un apnéiste, d'un budget annuel, je veux dire, pour boucler une saison? Vous n'êtes pas sur la liste des sportifs de haut niveau. Malgré tout, tu étais en équipe de France. Donc est-ce que l'équipe de France contribue à vos déplacements, à vos frais et autres? Ou est-ce que c'est toi qui dois tout financer tout seul? Et puis dans ce cas-là, à peu près, nous donner une idée du budget annuel pour exercer ton sport.
Ouais. Alors il faut savoir que donc historiquement c'est l'AIDA qui a pris en charge le développement de l'apnée à travers la France et à travers le monde aussi, même si le mouvement est né en France dans les années 90, et que ce n'était pas du coup une fédération reconnue, donc elle avait peu de budget. Et moi, pendant des années, lorsqu'il fallait partir sur un championnat du monde, étant athlète de l'équipe de France AIDA qui avait peu de moyens, je recevais une toute petite compensation financière, mais qui était dérisoire par rapport au, je dirais, c'était beaucoup plus symbolique par rapport au budget qui était mis en place, sauf sur 2 années, je crois, en 2010 et en 2012, où nous avions trouvé en fait un sponsor privé qui a pu accompagner en fait les athlètes sur ces deux championnats. Mais sinon, on va dire que quand on est sélectionné en équipe de France AIDA, on se débrouille pour pouvoir partir. À l'inverse des membres de l'équipe de France fédérale, donc FFESSM, qui eux ont un peu plus de moyens, et lorsqu'ils partent sur ces championnats, sont défrayés complètement de leur voyage, de leur hôtellerie, de leur restauration, des coûts inhérents à la phase de préparation. Donc il y a davantage de moyens. Mais moi, pendant toute ma carrière, on va dire, j'ai payé mes déplacements, mes voyages, aussi bien sur les championnats du monde, alors qu'on va dire que ce sont des compétitions, on va dire, un peu officielles, que sur les autres compétitions, les autres Open internationaux. Du coup, je ne faisais pas non plus des saisons avec 4, 5, 6 déplacements à travers le monde, parce que je n'avais pas les moyens non plus. Donc à l'époque, moi, je faisais surtout un circuit de compétition en France, qui était très axé sur la piscine, et puis une compétition en mer, on va dire. Et je m'octroyais la possibilité de partir sur le championnat du monde, qui était une grosse destination sur l'année, pour participer à ce championnat-là, on va dire. Donc ça a été pendant de très très nombreuses années la manière dont j'ai pu, on va dire, vivre mon sport à haut niveau. Au fur et à mesure, quand je dirais mon projet sportif est né, professionnel et sportif est né à partir de 2016, j'ai pu partir, on va dire, davantage, un peu de manière plus facile à travers le monde, en ayant déjà davantage aussi le temps, puisque lorsque j'étais salarié et prof de PS, je pouvais pas non plus partir tous les 3 mois, c'était un peu compliqué, quoi. Très souvent, les championnats du monde avaient lieu pendant la rentrée déjà, donc je ratais la rentrée, mais mon employeur me le permettait. Et donc c'était déjà beaucoup, et voilà, je ne partais qu'une seule fois, on va dire, à travers le monde sur ce type de déplacement là, quoi. Et par la suite, j'ai pu effectivement partir plus longtemps et de manière plus récurrente, parce que le temps m'était possible, et que financièrement c'était aussi davantage jouable pour moi. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis pas forcément non plus représentatif, on va dire, des athlètes qui vont pouvoir partir 3 ou 4 fois à travers le monde pour faire des compétitions. Ça a jamais été le cas, ou ça l'a été un tout petit peu, on va dire, entre 2016 et 2017. Mais je partais pas, voilà, tout 6 mois par an à travers le monde pour faire des compétitions. Ça a jamais été non plus la manière dont je voyais l'activité. Je préférais vraiment me consacrer sur un ou deux gros événements que vraiment partir à travers le monde, parce que aussi, je le répète, je n'étais pas 100% dédié à ma pratique, même si j'avais réussi à consacrer davantage de temps avec le business que je m'étais monté, bah, il fallait que je sois présent pour des stages, que je sois présent pour des conférences. Et bah, ça, du coup, ça limite aussi certains déplacements parfois, on va dire. Même si, encore une fois, voilà, j'ai vraiment un rythme de vie où je suis quand même maître de mon temps, et c'est quand même un luxe assez riche, on va dire, aujourd'hui. Hein. Mais je dirais que sur les budgets aujourd'hui qu'il faudrait tabler pour participer, aller à 2-3 compétitions à travers le monde, si on n'a pas de prise en charge, notamment par la fédération, et qu'on doit se débrouiller un petit peu tout seul, je pense qu'il faut à peu près entre 10 et 15 000 euros pour pouvoir le faire correctement, tout en comptant le matériel qui est assez coûteux, comme les palmes, les combinaisons, etc. Même si, bah, à un moment, à haut niveau, on a des sponsors, des équipementiers qui pallient, on va dire, à ces dépenses-là. Mais c'est vrai que, bah, quand on fait une compétition aux Bahamas, par exemple, et qu'on part 3 semaines, 1 mois, bah, c'est souvent 3-4 000 euros qui partent. Donc, ça va assez vite, on va dire. Si on fait une phase de préparation à l'étranger pour pouvoir profiter des eaux chaudes, parce que chez nous, bah, c'est un peu plus compliqué de s'entraîner en hiver, par exemple, bah, c'est des milliers d'euros tout de suite qui partent assez vite. Donc, 10, 15 000 euros, c'est déjà, on va dire, une somme assez importante pour pouvoir faire ce type de déplacement à travers le monde. On peut bien évidemment le faire avec beaucoup moins.
Oui, et là on ne parle que des frais relatifs aux compétitions. Il faut encore manger et mettre du beurre dans les épinards ou dans les pâtes.
Ça en fait partie. Hein. Quand je fais cette somme-là, ça en fait partie. Donc, il y a le billet d'avion, il y a la location un appartement sur place, une voiture éventuellement. Ça en fait partie. Vraiment, ça en fait partie. C'est-à-dire que c'est vraiment le budget global. Quand on se déplace, c'est pour être complètement autonome, on va dire. Oui.
Enfin, moi, je parlais de s'alimenter au quotidien toute l'année, tout le reste de l'année. Donc, voilà, compter 10-15 000, tu nous as dit, pour un déplacement, un gros déplacement. Donc, si tu en fais deux, bah, ça multiplie par deux. Et puis après, il faut quand même vivre, payer un loyer ou rembourser les traites de la maison. Donc, voilà, ça nous donne un petit peu une idée du budget et puis des mécanismes qu'il faut réussir à mettre en place pour pouvoir, bah, pour pouvoir assumer tout ça. Tu l'as dit, des conférences, des stages, des interventions en entreprise, peut-être du coaching ou peut-être plus de coaching dans les années à venir, et puis quelques sponsors, quelques partenaires qui te viennent en aide aussi. Ouais, j'avais une question sur la durée à peu près de tes déplacements, mais finalement, tu as déjà répondu dans cette question, c'est-à-dire environ 2-3 semaines et puis un entraînement au moins dans l'année pour aller s'entraîner au niveau des eaux chaudes. Donc, j'imagine que ça tourne aussi autour de 2-3
semaines. Effectivement, sur des compétitions internationales comme ça, en général, on se déplace sur des périodes un petit peu longues. Tu vois, moi, par exemple, en 2017, j'ai fait un gros déplacement dans les Caraïbes pour participer à une compétition. Donc, je l'ai mêlé, on va dire, aussi à une autre activité. C'est-à-dire que je me suis déplacé d'abord, c'était une compétition aux Bahamas. Je me suis déplacé d'abord en Dominique, pour découvrir ce pays, m'entraîner et faire un stage, ce qui me permettait du coup de gagner un petit peu d'argent aussi pour financer un peu tout ce voyage. Je suis parti 3 semaines, et puis un stage qui était assez long, c'était un stage d'une semaine quasiment. Et du coup, après, je suis reparti 3 semaines aussi dans la foulée aux Bahamas. Donc, je suis parti, on va dire, 6 semaines sur ce déplacement à travers deux pays, on va dire, la Dominique et les Bahamas. Donc, ça fait quasiment 1 mois et demi de déplacement pour une compétition qui durait, elle, déjà aussi 9 jours. Donc, c'était une grosse compétition. Et toutes les phases d'entraînement et d'acclimatation sur cette zone-là, on va dire. Ouais.
Ok. Et quelle place pour la famille, justement, dans un quotidien de sportif de haut niveau?
Ben, la place, elle a été pas évidente quand j'étais notamment encore salarié, parce que du coup, ben, je jonglais entre des horaires de travail et on va dire les activités à côté. La chance d'avoir une copine à l'époque était assez sportive, donc du coup, ben, elle suivait, elle participait aussi parfois à certains de mes entraînements en préparation physique, par exemple. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai pas d'enfant aujourd'hui. C'était un choix de vie aussi, et on va dire qu'aujourd'hui c'est un peu plus facile, puisque bah, la compétition me prend moins de place, donc je me déplace moins également. Par contre, je m'entraîne toujours, voilà, mais je m'entraîne dans mon univers autour de chez moi. Donc comme je voilà aujourd'hui voilà je peux faire ce podcast parce que je suis pas au travail à 8h30 quelque part, je suis chez moi, je gère mon temps, donc j'essaie de m'entraîner au maximum, on va dire, en journée aussi, pendant qu'elle travaille, et pour avoir aussi des soirées, on va dire, normales, voilà. les soirées normales.
Normal. Ça me fait toujours réagir. La normalité, qu'est-ce que la normalité ? C'est comme la beauté. Je pense que c'est propre à chaque personne.
Oui.
Ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses et toute cette franchise, honnêteté, Morgane. On avait dit qu'on ferait à peu près une heure, donc je ne vais pas prendre trop de ton temps. Juste avant de te laisser partir, j'aime bien poser quelques petites questions rapides à mes invités. La première, ce serait si tu pouvais te transformer en un tout petit, enfin pas si petit que ça, mais petit quand même, Morgane, et te parler au Morgane de 20 ans, qui va découvrir l'apnée peut-être de façon un peu plus compétitive. Quel conseil pourrais-tu te donner?
Ce que je fais aujourd'hui, c'est un rêve d'enfant. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être basketteur professionnel et jouer en NBA aux États-Unis. Très rapidement, j'ai compris que ce serait pas possible. Mais aujourd'hui, en fait, je vis de ma pratique sportive. Et ça, en fait, c'est un rêve d'enfant que j'avais quand j'étais déjà en primaire, on va dire, avec le regard d'un enfant, bien évidemment, sans la connaissance, de tout l'écosystème qui gravite autour de vivre du sport, voilà. Mais ce que j'ai fait aujourd'hui, en fait, c'est assouvir un rêve d'enfant. Donc, je dirais, à 20 ans, je n'avais pas encore, franchi ce cap, parce que je découvrais l'apnée. J'étais étudiant, puis après, j'allais travailler pendant 12 ans en tant que prof de sport, certes dans le milieu sportif, mais pas du tout vivre du sport, c'est-à-dire pratiquer du sport la journée et en vivre. Donc ça, c'était vraiment un de mes souhaits. Je dirais à ce jeune de 20 ans de s'accrocher parce qu'au bout, il va y avoir peut-être la possibilité d'assouvir ce rêve d'enfant, justement.
Ok.
Ça, je suis assez fier d'avoir fait ça. Ouais.
Super. Est-ce que il y a un ou deux moments qui ont marqué vraiment ta carrière d'apnéiste et que tu pourrais nous raconter, alors que ce soit des bons moments ou des moins bons moments? De toute façon, tu auras le droit à la deuxième question après, troisième, qui sera l'inverse. C'est-à-dire, si tu nous cites un bon moment, je vais te demander un mauvais moment, forcément.
Je dirais que le bon moment, alors peut-être le plus fort, ça aurait été de mon premier titre de champion du monde individuel. Donc, c'est mon deuxième titre de champion du monde qui a eu lieu en 2013. Puisque c'est lui qui m'a permis, on va dire, de franchir le cap et de mettre en place cette mise à disposition et tout ce projet professionnel derrière. J'avais déjà des sollicitations à l'époque, mais je pouvais pas vraiment y répondre. J'y répondais un petit peu, mais il fallait que je travaille, donc il y avait beaucoup de choses que je déclinais. Et du coup, 2013, ça s'est un peu accéléré. La médiatisation du titre a permis d'avoir davantage de sollicitations et de monter quelque chose de solide progressivement pour vivre par cette voie-là, on va dire. Donc, ça serait vraiment un moment important parce que c'est lui qui m'a fait basculer, on va dire, dans ce que je suis aujourd'hui.
Donc, et c'est ton, vraiment dans ton rêve de gosse.
Ouais, exactement.
Ok. Et du coup, un moins bon ou le pire moment de ta carrière ?
Un moment sportif aussi. Donc, 2 ans après, en 2015, j'ai jamais été très porté sur la préparation mentale. Parce que jusqu'à présent je n'en avais pas besoin, mais en 2015 j'ai vraiment vu que j'ai eu une grosse défaillance par rapport à cela et qui m'a beaucoup marqué sur le championnat du monde en 2015 que j'ai raté d'ailleurs au final, lié à une perte de contrôle de soi, on va dire, gestion des émotions impossible et on va dire la perte de son énergie et perte de ses objectifs et du coup revenu à la maison avec un zéro, on va dire. Sur le moment, c'était un moment compliqué, mais qui m'a beaucoup servi pour la suite et pour les 5 années qui se sont découlées derrière, dans lesquelles j'ai rebâti quelque chose, une autre manière de penser, découvert aussi ce que pouvait être la préparation mentale. Il faut savoir que toute ma carrière, moi, je l'ai fait seul. Je suis mon propre coach, donc même si j'ai une formation universitaire à la faculté des sciences du sport et que j'ai la capacité de pouvoir travailler et de connaître les déterminants de la performance, les moyens de pouvoir travailler ceci, etc. Mais encore une fois, je me débrouille seul, je suis mon propre coach et la préparation mentale, du coup, n'a jamais été, quelque chose que j'ai beaucoup pris en compte pendant toute ma carrière. Et je l'ai fait progressivement, notamment à cause de ce moment compliqué au championnat du monde de 2015 à Chypre.
Ça me ramène à une question que j'ai oublié de te poser, qui était relative à ton staff, justement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le staff qui t'entoure, médecin, kiné, préparateur physique, préparateur mental, entraîneur, voilà. On a bien compris que entraîneur non, puisque tu t'entraînes tout seul, mais rapidement, quel est le staff qui t'entoure ?
Je suis plutôt seul, on va dire, voilà. J'ai collaboré à partir de 2015 avec un coach mental qui est basé sur Paris. Donc, on va dire, c'est lui qui m'a accompagné progressivement. C'est lui, voilà, qui m'a fait découvrir un petit peu ce que pouvait être un soutien mental pour un athlète, à tel point que, voilà, aussi, aujourd'hui, je me suis formé à ses côtés, à sa méthodologie, qu'on intervient en entreprise ensemble. Donc ça, c'est une super expérience que l'on vit tous les deux. Après, je n'ai pas de préparateur physique. Je gère moi-même ma préparation physique. Je suis mon propre entraîneur aussi au niveau de mon activité spécifique, c'est-à-dire la plongée en apnée et les différentes activités, les différentes composantes, on va dire, annexes qui tournent autour de ça. Je suis suivi par le centre Hyperbar de Marseille, de l'hôpital Sainte-Marguerite, on va dire plus en tant qu'athlète pour voir l'évolution aussi de mon organisme après plusieurs années de pratique à haut niveau. Mais on va dire que c'est plus des visites et des collaborations, parfois aussi scientifiques, sur des études. Où on va dire mon statut d'apnéiste les intéresse pour certaines études, voilà, de physiologie en hyperbarie. J'ai collaboré pendant un an et demi avec un entraîneur de nage avec palme pour travailler l'ondulation. Mais aujourd'hui, j'ai des kinés préférentiels, un ostéopathe aussi que je vais consulter régulièrement. Mais c'est un écosystème, voilà, que j'ai créé autour de moi. Par des connaissances, qui dépendent, on va dire, c'est moi qui les finance, on va dire. Donc voilà, c'est pas une mise à disposition comme peut le faire par exemple l'équipe de France fédérale sur des kinés, des paramédicaux ou des collaborations avec d'autres entraîneurs sportifs d'activités différentes pour éventuellement travailler sur des transferts de compétences. C'est un microcosme, voilà, que j'ai bâti autour de moi. Après, j'ai une attachée de presse également. J'ai parfois travaillé aussi avec une agence de représentation. Donc voilà. Mais on va dire que mes activités, c'est quand même moi qui les gère, on va dire, principalement, quoi.
On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que effectivement, tu te gères tout seul. Oui. C'est parfois peut-être un peu plus compliqué, peut-être parfois un peu plus coûteux. Par contre, ça t'apporte cette latitude, cette possibilité de pouvoir aussi choisir tes prestataires, tes partenaires, tes intervenants, là où un sportif qui dépend de la fédération nationale, à qui on mettra à disposition un kiné ou un médecin, sera peut-être pas libre de choisir son prestataire de santé.
Tout à fait. Alors après, c'est aussi la réalité de notre pratique, je dirais. Même les athlètes qui sont en équipe de France fédérale, sont pris en charge lorsqu'ils sont effectivement sur les compétitions et à raison peut-être de un ou deux regroupements à l'année de stages de cohésion par exemple, mais le reste de l'année ils se débrouillent aussi seuls, hein. Donc c'est aussi, je dirais, ça dépasse, on va dire, le duo, on va dire, AIDA ou FFSSM. C'est la réalité de nos pratiques aujourd'hui. On est sur une activité sportive qui est une niche, en fait, et dans lequel il y a peu de moyens, mais comme d'autres sports, et certains sont olympiques et d'autres athlètes qui ont aussi, je dirais, les mêmes difficultés que nous, et pourtant ils sont au sport olympique. Donc au final, ce sont tous les sports qui gravitent autour des sports majeurs et qui sont tout aussi méritants, si ce n'est plus, on va dire, pour la manière de s'entraîner, de se prendre en charge, on va dire, que les principaux sports majeurs qui sont vraiment suivis et qui ont les moyens. Donc l'apnée en fait partie, même si aujourd'hui, oui, il n'est pas reconnu sport de haut niveau avec des listes ministérielles.
D'où l'intérêt de mon podcast, en tout cas j'espère, de pouvoir libérer un peu la parole sur ces sports et puis donner envie aux gens de les découvrir et évidemment d'aller soutenir aussi les sportives et les sportifs qui pratiquent. Morgane, une dernière question, alors qui est peut-être pas forcément facile à répondre, mais si tu devais réécrire le livre de ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu pourrais changer ? Quelle page tu changerais ? Ou à quel moment du livre tu switcherais ?
Alors, moi, j'ai commencé l'activité donc au début des années 2000. La plongée en apnée n'était pas aussi variée, diversifiée, connue et installée comme elle est aujourd'hui. Alors attention, en toute proportion gardée, bien évidemment, hein, mais aujourd'hui, voilà, on, On en parle dans les médias. Il y a des clubs un peu partout en France, au bord de mer et à l'intérieur du pays, qui permettent d'accéder quand même à cette activité. Même si, bien évidemment, il n'y a pas autant de clubs d'apnée que de clubs de foot. Ça, on est bien d'accord. Mais voilà, on est sur quand même une autre manière de fonctionner, une autre représentation. L'accès à la connaissance est beaucoup plus important aussi aujourd'hui. C'est pour ça que les athlètes progressent aussi beaucoup plus vite, on va dire. Je dirais que j'aurais pu peut-être, mais ça a été une force aussi, on va dire. Moi, j'ai progressé très lentement, vraiment petit à petit. Et d'ailleurs, entre mon premier titre de champion du monde et mon dernier, il y a quand même 11 ans. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes, je pense, qui ont cette latitude, on va dire, à haut niveau, de pouvoir gagner des titres de champion du monde avec 11 années de différence, on va dire. Donc, en fait, ce qui a marqué, voilà, ma carrière, c'est aussi la régularité, on va dire, et la progression petit à petit. Constante, on va dire. Et je dirais que j'ai pas eu la possibilité d'accéder très très tout de suite, on va dire, à la haute performance et on va dire d'éclore, on va dire, à haut niveau et d'être connu, on va dire, au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. J'étais, voilà, je faisais des résultats qui me permettaient, voilà, de d'intéresser l'équipe de France à l'époque et de participer à des championnats du monde, mais j'étais pas, voilà, sur l'élite de ces championnats, on va dire. C'est arrivé progressivement. Et je dirais que si j'avais pu, voilà, progresser plus vite, ça m'aurait intéressé, bien évidemment, d'avoir accès à ces connaissances plus vite et de descendre plus profond plus vite ou de parcourir ou de rester plus longtemps en apnée davantage. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, ce qui a fait ma carrière et ce qui a fait ma longévité, c'est aussi justement cet apprentissage autonome, d'essais-erreurs. Donc oui, j'ai fait des erreurs et qui m'ont orienté du coup un peu plus vers d'autres directions. Mais du coup, ça m'a créé une expérience énorme qui aujourd'hui, en termes d'entraînement, bah, et valorisable par rapport à toutes ces années de pratique. Donc, ouais, si j'avais pu progresser plus vite, j'aurais trouvé ça sympa, mais aujourd'hui, c'est aussi une de mes caractéristiques d'avoir pu durer comme ça. Je suis pas sûr que je change quoi que ce soit, en fait, sur cette longévité, parce que cette caractéristique d'avoir progressé comme ça et d'être encore présent aujourd'hui, d'avoir réussi aussi à créer mon écosystème de vie, en créant ma société, c'est quand même, on n'est que quelques-uns aujourd'hui à pouvoir vivre, on va dire, de notre image et vivre correctement. Je veux dire, après, bien évidemment, j'ai pas du tout le salaire d'un footballeur, hein. Mais aujourd'hui, voilà, je vis correctement, je vis mieux que lorsque j'étais salarié, d'un point de vue rémunération, et on n'est pas nombreux à pouvoir se le permettre aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai réussi à monter on va dire, ce modèle professionnel. Et il m'a fallu du temps, mais s'il m'a fallu du temps, c'est aussi que, ben, au départ, j'étais pas prêt. Donc, j'accepte aussi on va dire, cet état de fait que tout ce que j'ai construit, ben, il a fallu, voilà, que ça se mature et que ça se fasse progressivement. Donc, au final, je suis pas sûr de changer quelque chose, voilà.
Ok, bah écoute, je crois que ce sera le mot de la fin. Ne changez rien et puis, en gros, ne regardez pas derrière. De toute façon, en apnée, on regarde jamais derrière, on regarde toujours au fond et en haut.
On regarde devant, on va dire. Et
Super.
encore, on est beaucoup dans l'instant présent.
Ouais.
Il justement permet d'éviter de se dire, oh, il y a tout ça encore à faire. Oh là là.
Alors, je voulais quand même rendre hommage à Frédéric Azoulay qui nous a mis en relation
Ouais.
et avec qui tu as fait un magnifique épisode de podcast aussi, plus de 2 heures si je ne m'abuse.
2h27. Hallucinant.
Donc, un bel exercice de retenue de respiration. En tout cas, moi, je me suis délecté à l'écouter et je dois être totalement franc. J'ai retardé la fin de l'écoute de l'épisode pour pouvoir rester le plus longtemps possible avec vous. Donc, merci Fred. Merci à toi, Morgane, pour avoir répondu à cette invitation.
J'espère que j'ai répondu à l'ensemble de tes questions aussi. Voilà.
Oh, bah, j'en aurais encore plein, mais on avait fixé 1 heure et donc il va falloir quitter. Une dernière chose, si on veut te suivre un petit peu sur les réseaux, si on veut suivre ton actualité, si on veut te soutenir, si on veut venir te voir, si on veut venir en stage, où est-ce qu'on peut te contacter?
Alors moi, donc, j'habite à Marseille. Mes réseaux sociaux, c'est Morgane Bourkis, tout simplement, aussi bien sur Facebook, Instagram que LinkedIn, notamment. Donc, je suis assez actif aussi sur ce réseau professionnel. J'ai un site internet, www.morganbourkisaccroché.com, et sur lequel sont répertoriés, par exemple, l'ensemble de mes stages annuels qui sont programmés. Mon actualité aussi. Donc, voilà, on va dire canal internet, canal réseaux sociaux, et c'est déjà pas mal. Voilà.
C'est déjà pas mal. Bon.
Ouais.
Morgane, merci encore. Je te souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et puis bah, à très bientôt.
Merci, Armano. Merci beaucoup.
Vous vous êtes encore là, alors c'est que vous avez apprécié cet épisode et je vous en remercie infiniment. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de l'article sur vestiaire.org ou avec une revue sur Apple Podcast ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens pour pouvoir contacter mon invité dans les notes de cet épisode. N'hésitez pas à lui faire un petit coucou de ma part, je suis sûr que ça lui fera très plaisir et ça l'encouragera dans tous ses projets. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Salut les sportifs! We'll be right back.